FDN, c'est une association loi 1901. C'est tout simplement le plus vieux fournisseur d'accès Internet de France, aussi surprenant que ça puisse paraître, puisqu'on est fournisseur d'accès Internet depuis 1992. Alors les gens ne situent pas bien 92, on ne se rend pas compte. En temps Internet, c'est la préhistoire. C'est avant le web. C'est à l'époque où il y avait Internet et pourtant pas le web. Dans FDN, je suis président de l'association, c'est-à-dire adhérent comme tout le monde, élu président en Assemblée Générale et pas plus que ça. Les buts de FDN sont assez simples, ils sont de permettre un développement du réseau Internet. Ça n'a pas changé depuis 92. Et notre activité reste pleinement d'actualité puisque la majorité de ce qui circule sur le net ces temps-ci et des accès qui sont proposés correspondent à un sous-produit d'Internet qui est une variété de Minitel où on suppose que les gens sont des consommateurs passifs qui regardent une télé qui bouge dans Internet sous forme de blogs qu'ils sont priés de ne pas écrire et de ne pas héberger, sous forme de courriers qu'ils sont priés de ne pas héberger chez eux, de messagerie qui passe par des serveurs centralisés, etc. Moi, de la discussion en ligne, j'en faisais déjà du temps du Minitel, et c'est pas ça Internet. Internet, c'est quelque chose de plus complexe, de plus savant, où chacun est acteur du réseau, et où pour être acteur du réseau, chacun est un bout du réseau. Normalement, un ordinateur qui est relié à Internet, c'est pas un ordinateur passif qui vient consulter un contenu qui est hébergé ailleurs, c'est à la fois un ordinateur passif qui vient consulter et un ordinateur actif qui vient proposer et mettre à disposition du contenu. Normalement, quand on a un accès Internet chez soi, quand on allume son ordinateur chez soi, Internet s'est agrandi. Il y a une machine de plus dessus, donc il y a des contenus de plus disponibles, etc. Dans les applications utilisées de nos jours, la seule qui correspond vraiment à ce schéma-là, c'est le peer-to-peer. Effectivement, quand on allume un logiciel de peer-to-peer en plus, l'offre de fichiers augmente, le débit disponible augmente, le réseau agrandit. Ça, c'est du pur Internet. Après, sur le deuxième volet, qui est le point de vue d'un opérateur historique comme FDN sur Hadopi, il y a deux grands axes dans Hadopi. Il y a un premier volet qui est de dire on va attraper les téléchargeurs, on va leur envoyer des mails, des recommandés et leur couper l'accès, ce que j'appellerais le volet sanction. Ce volet-là, il pose des tas de difficultés légales, sur lesquelles je n'ai pas spécialement autorité pour m'exprimer, et il pose une vraie difficulté qui est de comprendre ce que veut dire la punition. Interdire, alors c'est pas tellement couper l'accès, ça c'est ce qu'en disent les ministres dans les journaux. La vérité, c'est un fichier des interdits comme il y a un fichier des interdits bancaires. Donc on va avoir des gens qui sont interdits d'Internet. Il faut comprendre ce que ça veut dire dans la société d'aujourd'hui. Interdit d'Internet, ça veut dire interdit d'information. À la fois comme consommateur d'information, c'est-à-dire que moi d'habitude je lis les journaux en ligne, donc j'ai plus le droit, mais aussi interdiction de diffuser de l'information. J'ai plus le droit de publier des billets sur mon blog. C'est ça que ça veut dire cette loi. Et à l'heure actuelle, il n'y a aucun crime ni aucun délit pour lesquels on interdise aux gens de s'exprimer. Même quelqu'un qui est en prison pour crime contre l'humanité a le droit d'écrire un livre et de le faire publier, de répondre à une interview. La seule chose qu'on lui interdit, c'est de parler de l'affaire pour laquelle il a été condamné. Mais un type qui est en prison pour crime contre l'humanité, s'il a envie d'écrire un article sur n'importe quel sujet, y compris politique, y compris très chatouilleux, il a le droit. C'est quelque chose de fondamental. Donc, sur le volet sanctions, cette loi pose un vrai problème, puisque, les ministres considèrent que la coupure de l'accès est une sanction très bénigne, c'est comme de priver un enfant de télé. Donc, c'est pas très grave comme sanction dans leur esprit. Or, une fois qu'on a compris ce que c'est qu'Internet et ce que ça veut dire, et la place que ça prend dans la vie des gens, couper l'accès à Internet, interdire d'accès à Internet, ça revient à interdire à un enfant de parler. Et des parents qui interdiraient à leur enfant de parler, ils iraient en prison très vite pour maltraitance. C'est quelque chose de très très sérieux comme peine. Donc le fait de penser à une peine comme celle-là et de la considérer comme mineure, ça dénote une très grande incompréhension du réseau. Et le fait de penser qu'une sanction aussi sévère, aussi extrême, puisse être prononcée par un organe administratif sans passer par la justice, ça pose des tas de difficultés. Donc ça, c'est le premier volet qui est le volet sanction. Et puis il y a un deuxième volet qui est beaucoup plus compliqué à expliquer, qui basiquement parle de la neutralité des réseaux. Un réseau de transport, c'est censé être neutre. Ça, c'est un concept, ça fait un peu fumeux, on dirait que débat entre philosophes. C'est pourtant vachement simple comme concept. Le facteur n'a pas à ouvrir les lettres. C'est basique, c'est un truc qu'on connaît depuis des siècles, qui est inscrit dans le droit depuis très longtemps. Le transporteur du message n'a pas ni à lire le message, ni à altérer le message. Or, pour attraper les téléchargeurs, il va bien falloir, petit 1, espionner le réseau pour savoir ce qui se passe dessus. Sinon, comment voulez-vous qu'on sache que j'ai téléchargé? Il faut bien qu'on m'ait surveillé. Donc ça veut bien dire que par un biais, éventuellement assez soft, mais quand même par ce biais-là, on écoute tout le monde, en supposant que tout le monde est délinquant. C'est un petit côté de Ceausescu dans le mode de fonctionnement. On va écouter toutes les lignes de téléphone, on verra bien s'il y a quelqu'un qui raconte des bêtises. Ça, c'est un premier aspect assez ennuyeux. Ensuite, il y a planqué au fin fond de ce texte, dans l'article 5, qui paye pas de mine, qui a l'air de rien. Quand on le lit, on comprend pas bien de quoi il parle, parce que ça dit que le juge pourra ordonner à toute personne susceptible de blablabla de prendre toute action susceptible de bliblibli. Ça a l'air très flou. Et une fois que ça a été traduit et qu'on a bien enlevé tout le verbiage juridique autour, ça institue le filtrage des réseaux. Ça veut dire que le juge peut ordonner le filtrage du réseau. Alors, on pourrait se dire, ah bah oui, c'est pour empêcher des crimes très graves. Non, 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 c'est pour empêcher le téléchargement. C'est dans une loi qui parle de téléchargement. Donc la loi institue la possibilité de faire du filtrage sur le réseau. C'est-à-dire que la loi considère comme normal que le facteur ouvre les colis et les lettres pour savoir si ce qui est dans le colis et les lettres est légal. Est-ce que dans le colis que j'envoie, il n'y aurait pas dedans une cassette sur laquelle j'ai copié de la musique venant d'un CD que je n'aurais pas acheté ? Ça revient à ça, cette loi. Et ça, c'est une entaille très grave à un principe qui est fondamental depuis des siècles, qui est que le transporteur n'est pas responsable de ce qu'il transporte. Le facteur n'est pas responsable des gros mots qui sont dans la lettre. C'est fondamental. Sinon, on tombe sur un modèle qui sort complètement de l'état de droit, où on dit que le responsable, c'est celui qui fait son métier de transporteur et non plus celui qui a commis le délit. Donc c'est vraiment un principe très fondamental en droit, qui est quelque chose de très profond et qui est remis en cause par ce texte. Ça, c'est le deuxième volet. C'est un volet beaucoup plus pernicieux, parce que peu de gens le voient, il faut être assez technicien pour le comprendre. Même les juristes se laissent assez facilement piéger par la signification des textes, mais voilà, ce texte remet en cause la neutralité du réseau, la neutralité des transporteurs, ça remet en cause bien évidemment du coup la neutralité des hébergeurs de contenu. Ça veut dire que, en gros, si je traduis ça dans la vie réelle, le propriétaire de mon appartement est responsable de mes méfaits si jamais je suis un délinquant. Ce qu'on rend l'hébergeur responsable du contenu hébergé. C'est-à-dire si chez moi, j'utilise mon appartement non pas pour dormir après une honnête journée de travail, mais pour faire un atelier clandestin ou de la prostitution ou de la vente de substances illicites, ou etc., ce serait plus moi le responsable. Ce serait le propriétaire de l'appartement qui me le loue. Ce qui est quand même extraordinairement drôle. Cette partie-là du texte est une partie dangereuse, est une partie qui est en train de passer complètement inaperçue, parce que la presse se focalise énormément sur la coupure, qui est un point grave évidemment, mais pas le seul. Et nous, ce qu'on redoute, c'est que la coupure d'accès soit sanctionnée, probablement par le Parlement européen, mais sinon, on a des chances aussi avec le Conseil constitutionnel ou avec le Conseil d'État. Mais par contre, l'aspect surveillance généralisée confiée à une police privée en vue de filtrer le réseau, celui-là sera passé, restera dans les textes et servira par la suite à faire d'autres filtrages, par exemple des filtrages de contenu politique, par exemple de la surveillance généralisée sur d'autres sujets pour attraper les grands délinquants d'ultra-gauche qui tiennent des épiceries en Corrèze, tout, n'importe quoi.
La position de FDN à ce sujet-là ?
FDN, c'est un opérateur national qui est déclaré, qui est officiel, qui est fournisseur d'accès Internet depuis très longtemps. On est opérateur reconnu auprès de l'ARCEP, etc., etc. Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est très simple. On va respecter la loi. On va respecter toute la loi et rien que la loi. Par exemple, cette loi explique que les adresses IP qui sont identifiées par la surveillance générale du réseau comme ayant téléchargé, la haute autorité indépendante qui relève en fait de l'exécutif viendra nous demander d'identifier les internautes. Bien, ça veut dire que quelqu'un qui télécharge depuis son accès, que ce soit un accès Orange, Free, SFR ou FDN, il se fera identifier par son FAI et nous identifierons nos abonnés. Ça, on renverra le nom du titulaire de la ligne, pas le nom de l'adhérent, c'est pas le même. C'est-à-dire quand on souscrit une ligne chez nous, il y a l'adhérent qui prend un accès ADSL avec le nom de la ligne. Par exemple, j'habite chez mes parents, c'est mes parents le titulaire de l'abonnement. On met qui on veut comme nom de titulaire. La loi ne m'oblige pas à contrôler les papiers d'identité du titulaire de la ligne. Je ne vais pas le faire. Je vous laisse deviner la suite de la phrase. Autre aspect, ne sont concernés que les fournisseurs d'accès Internet en France. Vous allez me dire, c'est très compliqué, moi j'habite à Paris, s'il faut que je prenne un accès Internet à Bruxelles pour pouvoir être tranquille, ça va me coûter une fortune en train. Oui, mais non. FDN a le droit de louer un ordinateur à Bruxelles, ça c'est légal. FDN a le droit de fournir des services en ligne à ses adhérents, ça c'est légal. Si le service en ligne, c'est de créer un tunnel entre votre ordinateur à Paris et la machine de FDN à Bruxelles, ça aussi c'est légal. Après, ce que vous faites de l'accès qu'on vous a loué, c'est votre problème. Nous, on n'est que fournisseurs de moyens. On n'a pas à vous surveiller, ça nous est interdit. L'opérateur n'a pas à surveiller ses abonnés. C'est très très clair dans le code des postes et communications électroniques. Donc nous, on vous fournit un service qui vous permet de récupérer une adresse IP fixe sur votre machine, malgré le fait que votre FAI traditionnel ne le fait pas. Et ce que vous ferez comme accès à Internet se fera depuis cette IP fixe. Et il est pour nous parfaitement légal de vous fournir une IP qui soit en Belgique. Je dis Belgique, ça pourrait être Russie, hein, pas regardant. On peut choisir à peu près le pays qu'on veut.
Et donc en fait, la sortie sur Internet sera dans ce pays, à l'autre bout du tunnel.
Oui, c'est-à-dire que l'IP qui aura téléchargé, ça ne sera plus la vôtre, ce sera celle du tunnel.
Et donc la réponse que FDN fournira à la haute autorité, ce sera une sortie dans un pays différent.
Ben non, c'est-à-dire que la haute autorité ne viendra pas nous poser la question, puisque c'est une IP belge, c'est pas une IP française. Donc les ayants droit qui verront le téléchargement verront que c'est une IP qui est en Belgique. Et donc ça n'ira pas à la haute autorité française, et donc on ne recevra pas la question. On pourrait recevoir la question si la Belgique décidait de s'aligner sur la législation française, ce qui n'est pas gagné, et si les ayants droit belges saisissaient la haute autorité belge, qui du coup, elle, se rendrait compte qu'effectivement l'IP est chez elle, mais appartient à une association domiciliée en France, et que donc on n'est pas tenu d'y répondre. Il faut une commission rogatoire internationale pour ça. Pourquoi on songe à ce moyen-là ? Bon, d'abord parce qu'on est des très dangereux terroristes, bien entendu, mais hormis ce côté dangereux terroriste déclaré et patenté, simplement, on a regardé comment faisaient les autres. C'est comme ça que font les banquiers. Ils sont pas contents de la loi de par chez vous. Il y a trop d'impôts, il n'y a pas assez d'impôts, il n'y a pas assez le droit de faire ce qu'on veut. Ben, ils ouvrent une banque dans un autre pays où on a le droit de banquer en paix, et puis après, ils font n'importe quoi tranquillement. Finalement, les banquiers y arrivent. Nous, on compte s'en servir pour des choses relativement bénignes, dans le fond, qui sont pouvoir accéder à l'information librement sans passer par un réseau filtré. Ça n'a pas l'air très dramatique comme ça. Eux, ils s'en servent pour ruiner la planète. Et vu les conséquences de leurs actes et la gravité extrême de leurs non-sanctions, je me dis qu'on doit pouvoir faire la même chose et risquer à peu près pas grand-chose. Ça fait 30 ans qu'il y a des paradis fiscaux. Ça n'émeut pas grand monde et en tout cas, ça ne bouleverse pas nos politiques. Je pense qu'on doit pouvoir se faire 30 ans de paradis numérique sans bouleverser les politiques.